VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Mali, trois membres de la Croix-Rouge portés disparus depuis samedi près d'Abeibara, à quelques 140 km au nord de Kidal. Nicolas Pinault a contacté Valérie Mbouanana, porte-parole du CICR dans le pays, pour en savoir davantage. On écoute M. Mbouanana.
Lorsque les opérations des forces françaises sont déroulées, notamment dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16, il semblerait que le guide du CIC aurait été arrêté. Donc le samedi matin, nos équipes sont donc parties de leur point de couchage vers Kidal. À peine ils sont partis à Beibara, qu'ils ont été abordés par quelqu'un qui était à moto. Et cette personne leur a demandé de le suivre parce qu'il y a un des responsables de la communauté qui souhaitait leur parler. Donc, ils ont décidé de suivre ce monsieur et c'est ainsi qu'on a donc perdu le contact avec eux. Ça, c'est les informations que nous avons pu avoir à la suite de la libération de l'un de nos collègues. D'après ce qu'il nous a dit également, ils sont détenus dans de bonnes conditions et puis ils n'ont pas fait l'objet de mauvais traitements.
Quel type d'opération mène le CICR dans cette partie du Mali?
Nous avons effectivement plusieurs types d'opérations que nous menons dans cette région du Mali. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nos collègues étaient en déplacement dans la région de Abeibara. Nous avons notamment de vastes programmes d'accès à l'eau potable. Comme vous le savez, c'est une région assez aride, quelque peu désertique, et l'accès à l'eau potable est vital pour les populations.
Valérie Mbouanana, porte-parole du CICR au Mali. Rappelons qu'en février 2014, 5 humanitaires avaient été enlevés près de Tombouctou avant d'être libérés 2 mois plus tard par l'armée française. Et toujours concernant le Mali, catastrophe aérienne de Gossi dans le nord malien, les enquêteurs français présenteront vendredi leur rapport final sur l'accident de l'avion d'Air Algérie qui a fait 116 morts en juillet 2014 dans le nord malien. Le vol Ouagadougou-Alger s'était écrasé près de Gossi. Côte d'Ivoire, reprise des cours aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan après une semaine de grève des étudiants pour ouvrir des pourparlers avec le gouvernement. Nous avons suspendu la grève pour 72 heures, le temps de rentrer en négociation avec les autorités, a déclaré à l'AFP Kwame Yao, alias Kennedy, porte-parole de la FESI, la Fédération étudiantine et scolaire de la Côte d'Ivoire. Selon la FESI, les discussions vont porter notamment sur la libération du leader de la fédération, Assif Fulgens, arrêté par les autorités la semaine dernière, ainsi que celle de 150 élèves et étudiants également détenus dans tout le pays. Afrique centrale maintenant, au Tchad, 17 délégués des partis politiques de l'opposition mandatés à participer au dépouillement du vote de la présidentielle du 10 avril à la CENI, la Commission électorale nationale, viennent de claquer la porte. Une décision rendue publique lors d'un point de presse des intéressés aujourd'hui. Un extrait de leur déclaration lu par leur porte-parole Makido Diombaye au micro de notre correspondant N'Djamena André Kodmajingar.
Recenser les résultats électoraux, c'est poser des questions si irrégularité est constatée sur un procès verbal à l'effet d'obtenir des renseignements nécessaires. C'est aussi obtenir à être en mesure de connaître les résultats de son candidat à la fin de l'opération. Nous avons été autorisés à accéder à la salle de saisie et de contrôle, mais nous ne sommes pas autorisés à poser des questions aux agents de saisie ni à prendre des notes. De plus, nous sommes privés de nos téléphones portables tandis que ceux du MPS utilisent librement les leurs. Ainsi, refusant de cautionner le faux qui est en train d'être mis en place par la CENI et son organe technique, le Bureau permanent des élections, nous, délégués des candidats, avons décidé en date du 17 avril 2016 de nous retirer du processus de dépouillement des résultats. Par conséquent, les délégués des candidats de l'opposition ne se reconnaissent pas dans les opérations de recensement des résultats. Ce travail de recensement des résultats de tous les bureaux de vote de l'intérieur et de l'extérieur a commencé de façon non conforme aux dispositions du code électoral et se poursuit en toute illégalité.
Makido Diombaye, porte-parole des observateurs de l'opposition qui se sont retirés du processus de dépouillement du vote présidentiel au Tchad. Centrafrique maintenant, l'Union européenne a officiellement lancé aujourd'hui une mission de formation de l'armée centrafricaine qui prendra le relais de l'opération française Sangaris avec les forces de l'ONU présentes sur place pour stabiliser le pays après 3 ans de conflit. Ce nouvel organisme succédera à la mission européenne de conseil aux forces armées centrafricaines dont le mandat expire en juillet. Sa base sera à Bangui et son mandat est pour une période initiale de 2 ans selon un communiqué publié à l'issue du du vote des ministres européens de la Défense réunis à Luxembourg. Pour une réaction du gouvernement centrafricain, Félix Yepastizembo a contacté le ministre de la Défense, Joseph Yakété.
C'est une très très bonne décision, hein, parce que l'Union européenne a toujours été notre partenaire privilégié et l'armée centrafricaine a besoin de cette formation. Comme vous le savez, l'armée centrafricaine a perdu tous ses repères. C'est une armée qui a été humiliée, une armée qui a été complètement déstructurée. Et aujourd'hui, cette armée se relève. Et la formation est l'un des éléments qui pourront faire donc de cette armée une armée de professionnels, une armée digne de ce nom.
Justement, Monsieur le ministre, vous héritez du ministère de la Défense à l'heure où l'on parle de plus en plus de la restructuration et du réarmement des FACA. Quel est votre sentiment à cet effet?
Réhabiliter les FACA, c'est une exigence nationale et c'est aussi l'une des préoccupations majeures du chef suprême des armées, hein, le président de la République, M. Faustin Archange Touadéra, puisque un pays sans armée n'est pas un pays, pas un pays moderne.
Le ministre centrafricain de la Défense, Joseph Yakété.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Violence au Congo-Brazzaville. La France a demandé aujourd'hui que des institutions internationales comme l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge fassent la lumière sur la situation dans le pays où l'armée est accusée par l'opposition de s'en prendre à des civils dans la région du Poul, dans le sud. Lors d'un point de presse ce mardi, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Romain Nadal, a appelé au respect des populations civiles et demandé que l'accès humanitaire aux personnes affectées soit garanti par les autorités. Et toujours au Congo-Brazzaville, Amnesty International dénonce les autorités congolaises. L'organisation des droits humains basée à Londres accuse les forces de sécurité gouvernementales d'utilisation excessive d'armes meurtrières dans des zones résidentielles. Les explications de la chercheuse d'Amnesty International Région Afrique Centrale, Ilaria Allegrozzi.
Bombarder des zones résidentielles où il y a des populations qui y habitent, c'est une violation grave. Un des témoins nous a rapporté qu'au moins 30 personnes ont été tuées entre les villages de Ngila et les villages de Soumouna. Et également, par rapport au déplacement massif des populations, c'est-à-dire que dans les villages qui ont été affectés par les bombardements, les populations ont fui, ces villages sont à présent désertés. Et les populations ont trouvé refuge dans les zones environnantes, dans la brousse ou même à Brazzaville.
Ilaria Allegrozzi, chercheuse d'Amnesty International, région Afrique centrale. Dans le nord du Cameroun, un petit garçon a été tué accidentellement lundi après avoir été percuté par une voiture du convoi de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, en tournée régionale pour la lutte contre les islamistes de Boko Haram. Et puis en Zambie, les violences xénophobes continuent pour la seconde journée consécutive dans plusieurs bidonvilles de Lusaka, la capitale. Des centaines d'émeutiers s'en prennent aux maisons et magasins de ressortissants étrangers accusés de crimes rituels. À l'actualité hors d'Afrique, le pape François a ramené avec lui dans son avion au Vatican trois familles de réfugiés syriens musulmans qui s'étaient échoués sur l'île grecque de Lesbos en passant par la Turquie à Rome en Italie. Ces invités du pape ont déjà été pris en charge par l'association Sant'Egidio. Plus de précisions avec le père Janvier Marie Gustave Yamirgo, chargé de l'Afrique et du secteur francophone au secrétariat pour la communication du Vatican.
C'est un choix d'ailleurs fondamental pour le pape qui a dit qu'il appelle l'Église à être comme un hôpital de campagne après une guerre pour soigner la souffrance des personnes. Donc on ne peut pas y voir justement un aspect seulement politique, politicien. Non, c'est le rôle même de l'Église, hein, et effectivement la dimension politique, c'est que cela souligne très fortement et donne honte aux politiques qui ont en charge la gestion, effectivement, de vivre ensemble. Et c'est une faillite de l'humanité, une faillite de la solidarité qui est dénoncée en acte par le fait même que le pape, il se rend sur place. Hein. Il a serré la main à 300 personnes différentes. Et comme il dit dans l'avion qu'il ramène, ces 12 personnes réfugiées tirées au sort représentent, comme disait Mère Teresa, une goutte d'eau dans l'océan de la misère, mais c'est déjà cette goutte d'eau.
Le père Janvier Marie-Gustave Yamirgo au Vatican. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.